rencontre avec nos évêques. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Thibaud Dautville au micro de Radio Présence pour notre émission hebdomadaire de rencontre avec l'un des évêques de notre région. Bonjour Monseigneur Camiade.
Bonjour Thibaud et bonjour à tous les auditeurs.
Et donc vous êtes l'évêque de Cahors et avec vous pendant ce mois d'avril, nous parlons de l'un de vos prédécesseurs, le bienheureux Alain de Solmignac, qui a été à la tête de votre évêché en plein XVIIe siècle. Nous évoquons cette figure aujourd'hui parce que votre diocèse célèbre les 400 ans de son ordination diaconiale. La semaine dernière, nous avons évoqué longuement l'enfance et l'appel qu'a reçu Alain de Solmignac. Et là, aujourd'hui, nous le retrouvons alors qu'il est officiellement abbé, mais pas complètement encore dans le siège de son abbaye. Nous le retrouvons à Paris, où il poursuit des études et où il va rencontrer des figures de son temps, des grandes figures, comme Saint François de Sales et Saint Vincent de Paul. Alors, qu'est-ce que c'est Paris à cette époque, Monseigneur Camiade?
Alors j'ai pas connu, je n'y étais pas, mais autant que je peux savoir, il y a beaucoup de personnalités. Vous les avez citées, notamment Saint Vincent de Paul qui est très présent et qui est une grande figure de la réforme catholique avec toute cette dimension de l'attention aux pauvres et aussi le souci de la formation des prêtres.
Qu'on retrouvera plus tard, voilà, chez Alain Solmignac.
On retrouvera chez Alain Solmignac, mais déjà, donc il y a les lazaristes, voilà. Puis il y a aussi des communautés de jésuites, il y a voilà, une formation, il y a, du point de vue théologique, c'est assez nourri, assez riche. Et donc il peut suivre une formation en profondeur, même si on dit que normalement il y avait 2 années de philosophie qu'il aurait dû faire, lui n'en fait qu'une. Enfin, il est pressé de revenir dans
son pays. Il brûle un peu les étapes. Ouais. On est en 1620 à peu près, hein, pour situer un peu dans le calendrier.
Oui, en fait, il arrive en fin 1618.
Voilà, 18 à 22.
Et puis, de 18 à 22. Et donc il va faire 3 années complètes de théologie pour obtenir donc le baccalauréat canonique en théologie et pouvoir recevoir la bénédiction abbatiale, puisque pour l'instant il est abbé nommé, oui, le roi, oui. Mais pour être consacré père abbé, il faut avoir ces diplômes-là.
Et donc voilà, il a ses diplômes en poche.
Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il va rencontrer tout ce courant de l'école française de spiritualité, oui, notamment à travers les conférences de Saint François de Sales. Qui vont beaucoup l'impressionner. Et je crois qu'il a rencontré aussi Monsieur Ollier, qu'il a impressionné. Enfin, il a été impressionné par un certain nombre de personnalités. Il va essayer aussi de visiter. Il va visiter toutes les abbayes des environs, voir comment ça se passe, comment se vit la vie conventuelle, comment les abbayes avec suivant la règle de Saint Augustin et d'autres abbayes qui sont plus des monastères. Type bénédictin cistercien. Il fait le tour, il se documente, il va en pèlerinage. Oui. Par exemple, il est allé voir à Notre-Dame des Vertus, à Aubervilliers. Enfin, là où sont allés d'ailleurs tous les grands de cette époque en pèlerinage. On voit que il profite. Alors on dit que ses études parisiennes. La plupart de ceux qui étudiaient comme lui, ils étaient plusieurs pères abbés nommés à suivre les études pour pouvoir avoir la bénédiction abbatiale. Certains profitaient pour aller au théâtre, pour se détendre quand ils avaient un moment libre. Lui, il allait visiter des abbayes, il allait prier, il allait il était totalement tendu vers son projet de prendre en main cette abbaye dont il sentait que elle avait à renaître de ses cendres parce qu'elle était pratiquement en ruine et il n'y avait pratiquement plus personne.
Et donc il arrive à Chancelade.
Et il retourne à Chancelade, donc en 1622, et il ramène d'ailleurs de Paris un jeune, ce qui fait. Alors il était parti faire les études avec le père Lamy, qui était déjà un jeune prêtre, qui était déjà à Chancelade, et ils reviennent à Troyes en fait, avec un de plus, donc ça c'est déjà le début de la renaissance et de l'appel aux vocations pour cette abbaye, et pour le service de l'église, parce que. En fait, il revient avec cette conviction que, suivant la règle de Saint-Augustin, Il est tout aussi important de vivre la vie conventuelle, la liturgie, la prière, et aussi de vivre un apostolat tourné vers le peuple qui des environs, et très vite il a le souci à la fois de la pauvreté qui sévit aussi dans cette époque-là dans les campagnes, et aussi du manque de culture religieuse et d'évangéliser, on dirait aujourd'hui, c'est peut-être pas le terme de l'époque, mais d'évangéliser autour de lui, autour de l'abbaye, que l'abbaye rayonne non seulement par la beauté de sa liturgie, etc., mais au départ d'ailleurs il n'y a rien, il faut reconstruire.
Oui, c'est ça, il a commencé par reconstruire à l'intérieur.
Reconstruire les bâtiments, oui. Mais en même temps, il a le souci dès le début de ce rayonnement, de cette annonce, de ce témoignage à rendre, à tel point d'ailleurs que l'abbaye, il n'a pas le premier sou pour la reconstruire, mais voyant son attitude, sa ferveur, son attachement à la prière, et puis son caractère aussi de leader, il se trouve que un certain nombre de fermiers des environs avaient récupéré des titres de propriété que l'abbaye avait d'un certain nombre de terres et que les calvinistes avaient volé et avaient dispersé dans les campagnes en les bradant, en les donnant. Mais les gens ne savaient pas trop quoi faire de ces titres parce que c'était des fermiers, c'était pas des gestionnaires, et ils savaient cultiver la terre mais ils savaient pas comment vraiment gérer tout cela. Il voit un homme qui est un leader et qui peut amener le relèvement aussi social de la région. Et donc on lui ramène les titres de propriété, ce qui fait que l'abbaye recommence à prospérer aussi financièrement. Alors autant au début il a emprunté, il ne savait pas comment il rembourserait, mais la Providence veille sur lui, et très vite, mais grâce à son rayonnement apostolique, à la reconnaissance qu'il obtient très vite de la population.
Et donc l'abbaye grossit, il y a un nombre de novices considérables qui vont entrer dans l'abbaye.
Ça ne vient pas quand même tout de suite.
Oui, bien sûr, c'est progressif. Mais...
Oui, c'est au bout pratiquement de 7-8 ans, oui. Il commence à y avoir vraiment des entrées. Oui. Après, il y a entre 7 et 10 entrées tous les ans. En quelques années, 50 prophètes perpétuels, donc ceux qui ont fait leur vœu définitif, en 15-20 ans de relèvement de l'abbaye.
Donc
heureusement qu'ils ne sont pas arrivés tout de suite, remarquez, parce que l'abbaye est encore en ruine, ils n'ont pas su où les loger.
C'est une chance que cet été progressif.
Oui, c'est ça. Mais le début est laborieux et difficile. Et il raconte à la fin de sa vie comment, à certains moments, bien souvent, notamment à l'office de nuit, il était seul à prier. Il y était toutes les nuits, parce qu'il se levait la nuit pour l'office des matines il a toujours tenu cette vie de prière. Il a entraîné d'autres, mais il a entraîné parfois dans le désert aussi, et il a vécu aussi cette épreuve de ne pas toujours obtenir le résultat de ce qu'il faisait. C'est un long mûrissement, et puis finalement le succès arrive. Mais vraiment, je crois que c'est une des marques profondes qui peut nous servir aujourd'hui d'exemple de la vie du bienheureux Alain de Solmignac, c'est que tout part de la prière, tout part du désir d'union à Dieu, tout part du désir de servir l'Église, d'annoncer la bonne nouvelle, d'être au service des hommes aussi. Et notamment, pendant son année à Paris, il y a une étape importante où il fait une retraite avec les exercices spirituels de Saint Ignace, et il va changer sa manière d'être profondément. On dit d'une grande austérité. On remarque qu'à partir de ce moment-là, il mange plus de viande et il
dort un repas par jour,
le sol, etc. on met l'accent sur ce côté pénitentiel, mais en fait c'est plus profond que cela, même si ça c'est une conséquence de son attitude. C'est il fait la découverte de la grandeur de Dieu, et il est impressionné, il est une espèce de révélation de l'infinie grandeur de Dieu et du néant de l'homme devant Dieu et de son propre néant. Et il en conclut que voilà, il est vraiment ce qui existe de lui n'est fait que pour servir Dieu. Il ne peut que se mettre davantage au service de Dieu, et il met toute son énergie au service de Dieu et de ses frères, et notamment des plus pauvres.
Donc c'est pas seulement un entrepreneur, c'est aussi un homme dont on sait qu'il est totalement habité par la prière, et c'est aussi ce modèle-là qu'on a envie de suivre.
C'est ce qui impressionne et qui.
C'est ça qui impressionne.
C'est ce qui fait cette cohérence de vie en fin de compte.
Et donc ça se sait. Ça s'ébruite, c'est remarqué, ça y est, les gens le savent. Il y a cette fécondité, il y a cet homme là qui est en train de faire renaître cet abbaye, et puis il y a des gens qui disent eh ben tiens, si on lui donnait d'autres charges, hein, on pense à lui déjà, on lui propose un premier évêché, il refuse, et qu'est-ce qui se passe là?
Ah, alors oui, c'est à ce moment-là que Richelieu l'a repéré, le présente au roi, on lui demande de venir évêque de Lavaur,
c'est ça,
et qui était un évêché à ce moment-là. Alors lui, il refuse parce que... Alors il faut savoir qu'il y avait... une autre réforme en cours des chanoines de Saint-Augustin, puisqu'il était chanoine de Saint-Augustin, et qui partait de Paris, de Sainte-Geneviève, mais à laquelle il n'adhérait pas. Mais qui était un peu, alors je dis ça avec des termes d'aujourd'hui, qui aimait bien faire des OPA sur les différentes abbayes pour les mettre sous son influence. Il y avait de grosses tensions pour, par contre, la réforme de Chancelade essaimait aussi dans quelques autres abbayes de la région. Il y avait de grosses tensions parce que c'était des conquêtes de territoire, surtout aux yeux de Sainte-Geneviève. Pour Alain, c'était vraiment impulser cette réforme spirituelle et de conversion et en même temps d'évangélisation, d'annonce et de souci des pauvres autour, alors que Sainte-Geneviève, la réforme était vue surtout sous l'angle de la qualité liturgique, l'aspect apostolique était beaucoup moins marqué. Et donc, voilà, il y avait un petit peu un conflit de vision de la réforme par les différents pères abbés. Et Alain Solmignac craignait que s'il devenait évêque de Lavaur, la réforme qu'il avait engagée à Chancelade tomberait et que finalement ce serait l'influence de Sainte-Geneviève, les Génovins, comme on dit, qui absorberait Chancelade et que tout ce qu'il avait essayé de construire disparaîtrait.
Il voulait donc d'abord achever son œuvre avant de se laisser appeler par autre chose.
Ouais. En plus, il y avait une cinquantaine de jeunes prêtres dans cette abbaye. Ouais. Aucun n'avait la capacité de porter ni l'aura, parce que Alain Solmignac était conscient que sa personnalité impressionnait et qu'il protégeait sa réforme. Voilà. S'il la quittait, c'était la fin.
Mais néanmoins, on va voir ça la semaine prochaine, néanmoins, il reçoit un autre appel, celui de venir à Cahors. Et donc nous verrons ça la semaine prochaine, Mgr Camiade. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui et bonne fin de journée.
Rencontre avec nos évêques.